Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler cette émission. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous allons parler de la troisième vague de Covid-19. Comment gérer cette troisième vague ? Nous recevons dans ce studio Dr Michel Mouvoudi, membre de l'équipe de riposte contre Covid-19. Dr Michel, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, fidèles auditeurs. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la police spéciale de lutte contre les embouteillages. Comment fonctionne cette unité? Vous avez des questions et préoccupations, composez les 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, Diodene Nyangasa est à la technique. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Comment gérer la troisième vague de Covid-19? Eh bien, en RDC, c'est depuis le 3 juin dernier que le ministre de la Santé a annoncé officiellement la troisième vague de la Covid-19 en RDC, avec comme épicentre la ville de Kinshasa. Le non-respect des mesures barrières, notamment le port de masques, le lavage régulier des mains et la distanciation sociale serait à la base de cette troisième vague de Covid-19. Alors, nous aurons la confirmation tout à l'heure avec nos invités. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer cette troisième vague? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la prévenir? Eh bien, nous aurons les réponses tout à l'heure avec nos invités. Nous avons dans ce studio Dr Michel Mouvoudi, membre de l'équipe de riposte contre Covid-19 à RDC. Et en ligne, nous avons donc professeur Jean-Marie Kayembe, chargé de la prise en charge des malades au sein de l'équipe de riposte. Professeur Jean-Marie Kayembe, bonjour. Professeur Jean-Marie, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, je vous entends bien.
Bienvenue dans cette émission. Alors, professeur, nous parlons de la troisième vague de Covid-19 à RDC. Vous confirmez que cette troisième vague est bel et bien là?
Oui, comment infirmer? C'est que sur le plan officiel, le responsable de la santé à RDC, le ministre de la Santé publique et hygiène, l'a confirmé également. À la suite du constat, lui présenté par les scientifiques, les équipes techniques. Elle est bien là.
Voilà. Et est-ce que les causes sont connues? Qu'est-ce qui est à la base de cette énième vague de Covid ici en RDC?
globalement, c'est le non-respect des mesures barrières ou le relâchement dans leur réalisation, application, qui va faciliter, quoi qu'il en soit, la propagation du virus. Évidemment, pathologie nouvelle, nous apprenons tous les uns des autres, en toute humilité. Il faut reconnaître aussi l'émergence, si par là, des variants. Ces variants contrarient un tant soit peu, les uns ayant une transmissibilité plus importante et plus facile que les autres, contrarient un peu les différentes mesures de réaction à travers le monde.
Bien, docteur Michel Mouvoudi, vous êtes membre de l'équipe de Riposte. Ouais. Nous parlons de cette troisième vague de Covid chez nous en RDC. Mmh. Quelle est la particularité de cette souche?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Je commence par saluer le professeur Jean-Marie Kayembe et lui dire un grand merci pour le travail qu'il est en train de faire avec nous dans l'équipe de Riposte. Mmh. En fait, ce qu'il faut comprendre, monsieur Jody, c'est que sur trois petits points, donc premièrement, la caractéristique, c'est que on se rend compte d'abord que c'est une vague qui monte à une vitesse de propagation très élevée. Si je prends par exemple en termes de nombre de cas, ok, entre la semaine 20 et la semaine 21, on a connu une augmentation de plus de 35% de cas. Donc, ce qui est déjà assez grand. Donc, ça c'est le premier élément. Donc, en fait, on assiste à une propagation très grande. Donc, comme vous venez de mentionner, une vitesse assez forte. Et deuxièmement aussi, ça s'est traduit par le nombre de malades hospitalisés. Donc, si vous regardez par exemple à la semaine 18. On n'avait que 7 cas graves ou sévères hospitalisés dans les hôpitaux à Kinshasa. Mais nous sommes partis à la 21e semaine déjà à 121 malades hospitalisés. Donc vous rendez compte aussi que quelque part la gravité est aussi un élément qui caractérise cette troisième vague. Et troisièmement, donc une des caractéristiques aussi, c'est que, et le prof l'a mentionné, en fait ces phénomènes se passent dans un environnement, dans un écosystème, si vous voulez bien, où les mesures de prévention ne sont pas au bon fixe. Donc, quand je parle des mesures de prévention, c'est premièrement les mesures barrières. Mmh. En tout cas, vous avez ce constat-là, qui est tout à fait patent, où vraiment, de plus en plus, on a très peu de gens qui mettent le masque. Vous avez plus de points de lavage de main, y compris dans les endroits où on a des flux migratoires de personnes assez élevés. Ok, vous avez une reprise assez timide des pratiques qu'on avait proscrites jadis, notamment les veillées mortuaires, les pratiques liées à l'enterrement, ainsi de suite. Donc, pas mal d'éléments commencent à revenir et créent justement cet environnement qui n'est pas favorable à la santé et qui pousse à la propagation du coronavirus de manière assez fulminante. Ça, c'est vraiment important. Vous n'avez presque plus de distanciation physique observée lors des manifestations ou lors des événements. Donc, si vous prenez les deux éléments, donc le fait d'abord que, un, il y a une vitesse de propagation très élevée. Deuxièmement, aussi qu'il y a une très, très, très hausse une hausse de cas en termes de malades hospitalisés. Je vous ai donné les chiffres entre la 18e et la 21e semaine. Et cela dans un environnement...
Est-ce qu'on peut dire aussi que cette souche est plus mortelle?
Voilà, le professeur a parlé notamment de la question de circulation des variants. Donc ça pourrait aussi justement expliquer cela. Et surtout, encore surtout, dans une situation où le programme de vaccination contre la COVID-19 n'a pas encore bien décollé. Donc quand vous réunissez tous ces éléments, vous vous rendez compte qu'il faut quand même se réveiller et prendre cette situation au sérieux.
Bien, professeur Jean-Marie Kayembe, nous, on se souvient que dernièrement, il y a des sujets étrangers qui avaient la Covid, la souche indienne dans un bâtiment à Gombe. Est-ce qu'on peut dire que cette énième vague est partie de cette affaire-là?
Il est difficile d'établir une relation de cause à effet, surtout en tant que scientifique, lorsque la traçabilité épidémiologique et même moléculaire n'est pas absolument établie. Toujours est-il que ça, c'est peut-être la partie visible de l'iceberg. On a pu mettre la main, on a pu dénicher assez rapidement ces voyageurs indiens venant de l'Inde. On ne doit pas en faire aujourd'hui des victimes consentantes ou les seuls responsables, même devant le relâchement de mesures barrières. Ceci renforce encore davantage l'intérêt du contrôle, l'intérêt du dépistage, l'intérêt de la sensibilisation quant au dépistage à nos frontières et même dans la communauté quant à la prise en charge médicale précoce qui pourrait aider à ne pas en arriver absolument à des cas très sévères. Ceci montre l'importance du dépistage, dépister, traiter, isoler, traiter. Voilà les trois verbes qu'il faut conjuguer à tout moment pour éventuellement nous en sortir.
Bien. Alors, docteur Jean-Marie Kaimbe, quels sont les signes de cette troisième vague de Covid? C'est toujours les mêmes signes, difficultés respiratoires, fièvre et autres?
Oui. Reconnaissons que ce que nous avons appris, qui continue d'être d'actualité, c'est que la plupart des sujets, plus de 80%, meurent toujours asymptomatiques. Ça veut dire non, pratiquement pas de signes. En ce moment-là, c'est soit le dépistage volontaire qui peut faire voir qui est, parce que même en étant asymptomatique, on peut transmettre la maladie. Évidemment, signes sont les mêmes signes. J'ai vu circuler les réseaux sociaux, mais mon Dieu, des faiseurs de, je ne sais pas moi, des fantasmes, etc., m'ont attribué, ayant déjà attribué à un contrôle, conseil de médecin, après c'était le conseil du professeur Jean-Marie Kaimbe, restez chez vous, avec des termes loin d'être ceux usités dans le langage médical. Je m'en vais, pour exemple, parler notamment d'une pneumonie thoracique, comme si il en existait d'autres qui soient cérébrales ou abdominales sans être thoraciques. Donc, ces faiseurs d'opinions malheureuses devraient au moins s'informer pour pouvoir donner des choses réelles. Mais on répond parfois à ce genre d'histoires globalement par le silence. Je vais répondre pour dire que les symptômes sont quasi les symptômes que l'on a rappelés jusqu'à présent. Sans être pathognomonique, vous avez quelque chose qui ressemble à une malaria ou à une grippe, mais parmi les signes qui orientent quand même de manière importante et facile, vous avez la perte du goût et de l'odorat. Et quand on donne ces signes aux gens, c'est d'ailleurs pour permettre aux personnes qui se sentent en situation comme celle-là, de se référer assez rapidement au centre de dépistage dans les hôpitaux pour éviter la stigmatisation. N'oublions pas parmi les signes qui accompagnent quand même cette maladie, la fatigue. Ceux qui ont souffert de Covid vous diront qu'ils n'ont jamais connu un état d'aussi grande fatigue qu'avec cette pathologie. Donc les signes, globalement, n'ont pas changé, mais il faut tout simplement savoir les connaître, les diffuser pour une grande sensibilisation en vue d'un dépistage précoce.
Bien. Alors, docteur Michel Mouvoudi, actuellement, il semble qu'à Kinshasa, il y a une grippe qui circule. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des signes majeurs de cette troisième vague de Covid?
Non, encore une fois, je pense que le professeur l'a mentionné. Donc, toute grippe ne dit pas Covid-19. D'accord? Donc, nous savons évidemment que pour le moment, il y a ce petit changement de saison. Se caractérise aussi par une montée d'une petite grippe, en tout cas pas mal de gens.
C'est saisonnière, c'est lié
voilà
à la saison.
Mais encore une fois de plus, si vous regardez les signes que présentent ces personnes qui ont la grippe et vous regardez aussi quelque part les signes qu'on a chez certaines personnes qui ont la Covid-19, vous avez des similarités. On parle même parfois des signes de la malaria qui s'approchent un peu de la Covid-19. C'est comme ça qu'il faut pousser en avant le dépistage. Je crois que le professeur l'a mentionné. Un des éléments sur lesquels il faut mettre un accent prépondérant, c'est dans quelle mesure faire en sorte qu'il y ait un accès au dépistage pour différencier les maladies respiratoires autres que la Covid-19. Je crois que ça, c'est très important. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est capital à comprendre maintenant, Monsieur Jody, c'est en fait, les chiffres montrent que dans cet environnement, on a quand même des cas confirmés de Covid-19 qui augmentent. Donc, encore une fois de plus, il faut pêcher par excès que par défaut. La meilleure de façon, c'est de pouvoir dire, dans une situation pareille, décrite de la manière dont nous venons de le faire, le respect des mesures barrières, la prévention reste le pilier principal. Et cette prévention passe par le respect des gestes barrières que nous connaissons très bien. Donc, s'il y a un élément sur lequel on devra travailler, c'est justement faire en sorte qu'on sensibilise, qu'on éduque et que les gens comprennent que si chacun de nous se met à respecter ces mesures, qu'on revienne sur toutes ces mesures que nous se sont dédictées à travers les populations, nous allons déjà diminuer drastiquement la propagation de ce virus. Et ça, c'est très important et il faut le faire vite et tôt.
Et il semble que l'équipe de Riposte travaillerait déjà sur des mesures, le renforcement des mesures, des contraintes.
Je crois que déjà ce que nous faisons ici en étant sur la radio Capi, c'est déjà un travail de l'équipe de Riposte. Ça veut dire que nous venons déjà ici alerter, nous sensibilisons et nous demandons à la population de ne pas suivre ce qu'on raconte
dans
de
les
n'importe
quelle
manière. Voilà, et d'avoir un minimum de discernement, M. Jody. Moi, j'insiste toujours sur ça. Il faut que le peuple congolais puisse avoir un minimum de discernement. Ce n'est pas parce qu'on est dans les réseaux sociaux, c'est pas parce que quelqu'un écrit sur Facebook que tout ce qui est dit est vrai. Il faut vous fier aux avis du ministère de la Santé, il faut vous fier aux avis des structures qui sont attitrées à donner des informations potables à la population sur la question de la COVID-19. Ça, c'est très important. Mais sur ça, il faudra que tout le monde comprenne que ce que nous sommes en train de faire comme travail, c'est vraiment de la responsabilité partagée. Je l'ai toujours illustré par un exemple simple. Vous êtes malade, votre médecin vous dit attention, ne prenez pas de la cigarette, vous risquerez de développer un cancer du poumon.
Oui.
Vous êtes co-responsable de la réussite de ce conseil. D'abord, celui qui vous dit, d'abord, premièrement, mais deuxièmement aussi, c'est que vous-même, vous devez vous dire, j'ai un rôle à jouer. Et dans le cas d'espèce, chaque Congolais, n'est-ce pas, chaque personne a un rôle à jouer si nous voulons arriver au résultat escompté. Ce n'est pas que l'affaire de l'équipe de Riposte. Mmh. Encore une fois de plus, ça c'est le premier élément. Donc, il faut que la population comprenne que sa participation reste un pilier important pour qu'on arrive à diminuer la propagation du virus. Deuxièmement, c'est aussi aller au-delà de cela. C'est non seulement communiquer, sensibiliser, mais qu'on a justement des instruments de gouvernance qui devront veiller à ce qu'on applique. Comme je l'ai toujours dit, Monsieur Jody, nous disons ce qu'il faut faire, mais entre dire et appliquer, parfois, dans notre pays, c'est le jour et la nuit. Donc, il faudra justement qu'il y ait des mesures qui vérifient à travers les institutions, par exemple, qu'on a des points de lavage de mains, qui vérifient que les gens portent les masques, qui vérifient notamment...
C'est la police qui devrait le faire.
Il y a la police. Nous avons les inspections de la santé. Nous avons même toute une commission qui s'occupe de ce qu'on appelle la sécurité. Donc, c'est veiller à ce que les mesures édictées soient appliquées. Encore une fois de plus, c'est un travail qui doit se faire à tous les niveaux. Et c'est comme ça que je ne cesse de demander l'implication des autorités politico-administratives. À tous les niveaux. C'est important que le bourgmestre, c'est important que le gouverneur, c'est important que l'administrateur du territoire, c'est important que
le chef du quartier,
tout le monde, chacun doit se dire, là où je suis, représentant l'État, j'ai un rôle à jouer pour pouvoir appeler la population à un certain nombre de mesures à respecter, mais aussi utiliser la sanction là où cela n'est pas appliqué. Vous avez une boîte de nuit, vous avez une église, vous avez, je ne sais pas moi, une cérémonie d'enterrement qui ne respecte pas ces mesures-là, ben écoutez, il appartient justement à l'État de faire appliquer la loi. Et ça, c'est important si nous voulons justement arriver à une protection collective et assurer que nous sommes en train de travailler dans un environnement potable qui pour à la fois relancer notre économie, mais éviter de compter des décès comme c'est le cas en Inde aujourd'hui. Je crois que c'est une situation qu'il faut absolument éviter, mais nous n'allons l'éviter qu'en mettant l'accent sur la prévention, dont principalement le respect des mesures barrières et la vaccination qui est en train de se mettre en place progressivement.
Bien, vous êtes certainement nombreux à vouloir participer à cette émission. On me fait signe que le numéro habituel de l'émission ne marche pas pour l'instant. Prenez ce numéro si vous voulez participer. Le 081-890-63-30. 081-890-63-30. Appelez déjà, le standard est ouvert. Appelez si vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique.
Capi Retro. Faut revivre le tube des années 60, 70 et 80.
Balingi Babina, musique Africa.
Africa.
Toua Bogou et Toua Bogou.
Rumba, pop, disco, slow. Des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Lundi et mardi à partir de 23h et le dimanche à 21h.
Okapi.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi.
Bien, nous parlons de la troisième vague de Covid-19. Comment gérer cette situation? Comment la prévenir? Eh bien, Marcel me fait signe que le numéro habituel de l'émission fonctionne maintenant. Ça marche. Donc, vous pouvez appeler aux deux numéros 081-890-63-94 ou bien composer les 081-890-63-30. Docteur Jean-Marie Kayembe, vous êtes en ligne. Alors, docteur Michel Mouvoudi nous a dit tout à l'heure qu'il faut renforcer les mesures de prévention. Parlons par exemple du couvre-feu qui a été repoussé à 22 heures. On a entendu certaines personnes dire qu'il sera ramené à 21 heures et qu'il y aurait encore beaucoup plus d'arrestations. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
À ce sujet, je dirais, avec le, on a entendu, c'est donner quelque part raison aux réseaux sociaux, certains maléfiques et maldisants. La décision du couvre-feu ne relève aucunement d'un comité scientifique ou technique. C'est une décision politico-administrative. Quand elle a été prise, elle a été bien pensée à la suite de conseils, bien sûr, de nous, scientifiques, etc. Les décideurs appliquent les décisions, les mesures. Maintenant, attendons voir. Qu'est-ce qui pourrait déterminer le décideur à revenir, à prolonger, à aggraver les mesures? C'est notre comportement. C'est l'évolution épidémioclinique de la pandémie dans notre pays. Quelque part, la communauté et les individus, nous sommes tous responsables du devenir, de ce qui pourra se décider demain. C'est aujourd'hui que nous préparons les mesures de demain. Donc, que des suppliés, faisons chevalier de la plume et homme de presse que vous êtes, et nous-mêmes et tout le monde et toute la communauté, les leaders, sensibilisons suffisamment. Nous avons réussi à contenir un tant soit peu la première et la seconde vague. Nous devons apprendre de nos faiblesses passées, mais capitaliser également nos efforts pour aller et faire toujours mieux. La discipline dans la gestion de cette pandémie, voilà ce qui sauve notamment la Chine, d'où est partie la pandémie du SARS-CoV-2.
Bien. Alors, docteur Mouvoudi, il est toujours important de revenir sur les mesures barrières, de toujours les rappeler. Quelles sont les mesures barrières qui nous protègent contre Covid-19?
Alors, avant peut-être de toucher votre question, monsieur Joudi, je voudrais renforcer ce que le professeur venait de dire. Il est important que les gens comprennent que lorsque nous sommes en santé publique et que nous avons de telles stratégies, nous ne cessons de parler de l'auto-appropriation des mesures.
Docteur, permettez, on va accueillir un premier auditeur et on reviendra sur vous tout à l'heure.
Je vous en prie.
Dan Kassongo, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup. C'est depuis Kisangani.
Vous êtes plutôt à Kisangani. D'accord, allez-y.
J'avais une question à demander à Docteur Mouhoudi, qui est notre invité aujourd'hui. Et lorsqu'il parle des variants Covid-19, nous voyons qu'il y a des variants argentés et des variants sud-africains. Alors que dans nos frontières, il y avait des services qui étaient implantés, les services qu'on appelait les services d'hygiène, les services de contrôle aux frontières. Est-ce que ces services-là sont encore opérationnels ou quoi? Parce que on ne sait pas comment expliquer que tous ces variants-là se sont retrouvés dans notre pays, comme à Kinshasa, là où vous êtes, alors qu'à l'aéroport, il y a tous ces services-là. C'est déjà tombé en faillite, tout ce comment. C'est la première question. J'avais aussi la deuxième question à propos des mesures barrières. Parce que nous avons comme impression que les autorités ne communiquent plus depuis que la courbe est... On a constaté que la courbe est en train de baisser. Même dans les réseaux sociaux, même dans les radios, dans nos médias, on a comme impression que les autorités ont oublié que la pandémie existe encore. Alors qu'ils doivent communiquer avec la population pour que celle-ci sache comment vivre avec la maladie.
Bien.
Ce n'est pas aujourd'hui
Merci Dan.
La maladie.
D'accord, merci. Merci Dan.
Aussi la sensibilisation sur la vaccination.
Oui. Merci beaucoup Dan de Colosi, 081 890 63 94. Appelez pour participer à cette émission. Charles Kisimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, en tout cas la première question, l'invité Rezouane a déjà répondu concernant quand il a dit que les gestes barrières restent toujours les mêmes, maintenus. Alors, j'aimerais aussi savoir concernant les vaccins ou la vaccination, est-ce que la dose... Il y aura une nouvelle dose, un nouveau vaccin, ou bien ça sera comment? Et puis, nous voulons aussi savoir, concernant l'état des lieux de la vaccination, comment ça évolue d'abord au jour d'aujourd'hui, parce que nous avons appris cela comme un coup de tonnerre quand on a annoncé la troisième vague. Est-ce qu'il y aura encore une nouvelle vaccination, ou bien ça va rester toujours comme ça? Voilà mes petites préoccupations.
Merci Charles. 081 890 63 94, c'est le numéro pour participer à Okapi Service. Nous parlons de la troisième vague de Covid-19. Kamizire Ngalamulume, vous êtes à Kananga. Bonjour. Kazimire, bonjour. Bien, il n'est plus en ligne. Docteur Mouvoudi, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Donc, je permets que je vous répondez très rapidement la première intervention. Mm-hmm. En fait, c'est ce que je parlais de l'auto-appropriation, qui est en fait une dimension très importante lorsqu'on parle généralement des soins de santé primaires. En fait, toute stratégie d'amélioration aux soins de santé de qualité. Et c'est important que les gens comprennent qu'on est dans une situation où il faut pas que quelqu'un pense qu'il faut être derrière lui, il faut fouetter, il faut venir taper les gens pour leur dire attention, mettez les masques. Si nous voulons réussir, il faut que chacun de nous comprenne qu'il a une responsabilité personnelle. D'abord, votre santé, vous en êtes le premier responsable. Et si chacun de nous prend conscience, ok, de ce qu'il faut faire, de la bonne pratique qu'il faut appliquer, à l'addition, nous avons une communauté qui se protège. Encore une fois de plus, c'est très important. Bien évidemment, nous avons des niveaux de contrôle, nous avons des niveaux de surveillance, mais la réussite qu'on a généralement dans les activités de santé publique, que ça soit ce qu'on a vu avec l'Ebola à l'Est, que ça soit ce qu'on voit dans d'autres situations où nous faisons face aux catastrophes, c'est que chacun comprenne que ce qu'on me demande de faire, c'est pour moi. D'accord? Cette auto-appropriation est capitale. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut avancer. Et c'est par là qu'il faut marteler pour pouvoir obtenir l'engagement de tout le monde. C'est très important. Si on se met dans une idée comme quoi, ben, on viendra nous rappeler, on viendra nous forcer, ou je mettrai le masque tout simplement quand je vois un policier, nous n'allons pas réussir. Oui. Donc c'est encore une fois de plus l'occasion de dire, il faut marteler sur la sensibilisation. Le travail que vous faites, monsieur Jody, est très excellent. Je pense que ce travail doit être relayé par d'autres médias. Alors, sur la question de monsieur Dan Kisangani, justement, je crois que on a une très grande responsabilité sur le contrôle transfrontalier. Et si vous regardez par rapport même au pilier de la riposte contre la Covid-19, la surveillance aux portes d'entrée, n'est-ce pas, est un pilier très important. D'accord? Et encore une fois de plus, si on a eu à détecter quelques variants en RDC, c'est aussi parce que on a notamment institué ce dépistage à l'entrée.
Mmh. D'accord? Là, il se pose mais la nous question savons comment que ces variants argentins faible. Et sud-africains.
Exactement, c'est que vous entrez, oui. On vous prélève et après un temps, on se rend compte que vous aviez justement le virus. Mmh. Et quand on fait toutes les analyses approfondies, on se rend compte que vous aviez un variant. D'accord? Mmh. On est connecté au monde, monsieur Jody. N'oubliez pas que nous ne sommes pas isolés du reste du monde. Nous continuons pour des raisons économiques, des raisons sociales, pour des raisons d'échange au niveau international. Nous restons connectés encore à certains pays, malheureusement, où circulent ces variants-là. Mais ce qui est vrai et ce qui est important, c'est que la RDC, c'est plus de 400 portes d'entrée. Okay, si vous regardez le récent rapport du Programme national d'hygiène aux frontières. Et donc, il est important que lorsqu'on sensibilise, lorsqu'on travaille sur des questions de prise en charge, qu'on n'oublie pas aussi de renforcer le contrôle au niveau des frontières. Ça va être très important.
Plus de 400.
On y mette les moyens. Ah oui. En tout cas, on a beaucoup, on en a plus de 400. J'ai suivi le rapport du directeur national du programme d'hygiène aux frontières. En tout cas, on a beaucoup de points d'entrée en RDC. Évidemment, sur le plan aérien, donc si vous prenez que les aéroports internationaux, on en a déjà suffisamment beaucoup. Donc, il faut continuer à travailler sur ça. Et lorsque je dis travailler sur ça, c'est premièrement d'abord assurer que les gens sont dotés de moyens pour pouvoir assurer ce contrôle. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est assurer justement que ce contrôle fonctionne, que les gens sont là et qu'ils ne laissent pas des personnes passer, hein, au prix parfois des petits billets des banques, au prix parfois des absences non justifiées. Donc, il faut vraiment qu'un service, dès qu'il est mis en place, qui fonctionne normalement. Et troisièmement, il faut assurer, comme l'a bien mentionné le professeur, qu'il y a une discipline et que les informations sont partagées avec les autres structures qui sont au pays pour pouvoir assurer que l'on fait le suivi des personnes, notamment qui sont arrivées ou des personnes qui ont été contaminées. Ça, c'est très important. Alors, ceci revient à ce qu'il a dit, notre ami de Kisangani Dan. Donc, encore une fois de plus, il est temps de pouvoir relever cette sensibilisation. C'est vrai que lorsqu'on a eu une déplétion de la deuxième vague, on a continué à sensibiliser, mais je suis d'accord avec lui que le niveau n'était pas optimal. On a semblé donner l'impression que finalement, c'est tout, c'est terminé. Il faut croiser les bras. Je crois qu'il est important que l'on continue et les autorités doivent continuer à sensibiliser. Mais la sensibilisation n'est pas que l'affaire des autorités politico-administratives. Tout le monde peut sensibiliser. Dès lors que vous êtes pasteur, dès lors que vous êtes père de famille, dès lors que vous
leader
êtes
d'opinion.
Leader d'opinion quelque part, je ne sais pas, dès lors que vous avez l'oreille d'un groupe de gens, continuez à répéter ces genres de messages. C'est en fait un travail collectif, c'est de l'addition de l'effort de chacun que nous allons arriver justement à voir la situation s'améliorer. Et donc, sur la question de vaccination reste très importante.
Avant de parler de la vaccination,
y arriver.
Il y a deux auditeurs en ligne, Muteba de Kindu et Ogi Benvelo de Kikuit. Muteba, bonjour. Muteba, vous êtes en ligne depuis Kindu, bonjour. Muteba, vous êtes là? Bien, on va prendre Ogi Bendelo. Bonjour Ogi.
Bonjour Jody, bonjour à tous et bon début de semaine à tous ceux qui nous écoutent.
Merci Ogi. Quelle est votre question?
Ok, merci beaucoup Jody. J'ai deux seules questions. Par rapport à l'application et la mise en pratique de la loi, j'ai entendu notre invité venir de dire que l'application de la loi dans notre pays, c'est comme la nuit et le jour, donc ne s'y rencontrent jamais. Nous sommes en train de voir dans des télés les reportages que nous sommes en train de vivre. Les gens ne tiennent plus compte des mesures barrières. Les gens s'embrassent comme il le faut dans des dates, des manifestations et consorts. Alors, si l'État lui-même n'est pas capable de pratiquer ces principes-là, à combien plus forte raison nous entendrons des cris et d'insistance à nous qui sommes la population. Ma deuxième question était de savoir, il y a d'autres tradis politiciens qui disent que si la personne manifeste déjà des signes, il faut qu'il aille auprès des tradis praticiens pour se faire soigner parce que, selon eux, il s'agit des feuilles telles que la citronnelle, des feuilles d'orange et des citrons, des feuilles pareilles. Alors, je voulais aussi avoir des précisions auprès de notre invité. Est-il normal et convenable que la COVID-19 puisse aussi être guérie par
la citronnelle?
Oui, oui. C'était là mes deux questions. Je vous dis merci et bonne suite des programmes.
Merci. Docteur Jean-Marie Kayembe.
Je vous en prie, oui.
Vous avez la parole.
Oui, je commencerai par la dernière question de notre intervenant qui parle traduit praticien. Oui, il ne faut pas d'un revers de main effacer, essuyer toute la connaissance endogène traditionnelle. Il y a certainement dans la pharmacopée, les plantes médicinales, etc., des plantes qui devraient avoir des vertus antivirales, etc. Mais la procédure pour leur acceptation, pour leur utilisation, pour leur vulgarisation, c'est une procédure qui a des exigences de rigueur auxquelles on ne peut pas se soustraire, surtout lorsqu'on est l'État, étant donné que l'on a la protection des individus en sachant que tout médicament est quand même pourvu de quelques effets indésirables qui parfois peuvent être sévères, comme l'insuffisance rénale, etc. Maintenant, toutes ces vertus naturelles, oui, elles sont là. Les pharmaciens spécialistes en plantes médicinales parlent même d'alicaments au lieu de parler de médicaments. Les alicaments étant les plantes qui ont des vertus qui peuvent guérir. Il y en a qui sont établies depuis le signe de temps. C'est l'exemple de l'artémisia qui a été utilisée dans le paludisme et même dans Covid, pas seulement chez nous, même en Chine et ailleurs. Mais évitons toutefois les faiseurs d'illusions, les vendeurs d'illusions et la publicité qui, de toute façon, n'a pas sa place dans le traitement des sujets qui sont malades. Il ne faut pas oublier également que dans cette maladie qui nous invite à une très grande humilité en apprenant les uns des autres, on sait d'ailleurs que près de 80% des sujets ont des formes totalement asymptomatiques et qui peuvent guérir très rapidement ou de formes bénignes. Allons-nous attribuer uniquement à la décoction de feuilles de citron et de maïs ou de manioc, etc., le fait curateur ou l'évolution naturelle même de la maladie? N'ayant pas de précision là-dessus, la prudence est de rigueur. Voilà un petit peu ce que je peux dire à notre avis.
Merci, docteur Jean-Marie Kayembe. Je rappelle que vous êtes membre de l'équipe de Riposte contre Covid-19. Merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée.
Merci beaucoup.
Salut, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour sur nos antennes de l'émission Roundup. Je suis Nico Kalambay et je vous retrouve désormais chaque samedi de 13h à 15h pour la diffusion et dimanche de 20h à 22h pour la rediffusion. Roundup signe son retour à partir du 24 avril 2021. On se retrouve donc très vite sur les ondes avec vous.
Au Capiservice, nous parlons de la troisième vague de Covid-19. Qu'est-ce qu'il faut faire pour comment gérer cette situation? Vous êtes nombreux à vouloir participer à cette émission. Appelez au 081 890 63 94. Maître Gaston nous appelle de Kinshasa et Paul de Luena. Maître Gaston, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question par rapport à cette troisième vague de Covid-19?
Bon, la première question, c'est sur la manière, la contamination, hein, comme on le dit, que la manière dont se transmet cette maladie. Apparemment, on nous a dit que ce sont des Indiens. Vous savez aussi l'origine de cette maladie est venue d'un humain qui est venu de l'étranger et qui nous l'a transmis ici. Et la troisième vague aussi rentre dans la même logique. Il y a des Indiens étrangers qui sont venus. Mais au même moment, on donne aussi l'importance aux manières dont les Congolais devraient se conformer et se comporter pour éviter cette maladie. La première réaction, c'est quoi au juste? Il s'agit de la contamination, la transmission de cette maladie d'un humain à un autre, ou deuxièmement, les mesures qu'il faut respecter pour ne pas être contaminé. Parce que parmi toutes ces mesures-là, vous savez, c'est très important, ce sont les mesures hygiéniques qu'on devrait respecter pour toutes les autres maladies aussi. C'est pas seulement le cas de cette maladie qu'il faut oublier. Puis, vous savez, les mesures barrières, à un moment, étaient érigées à des lois ou des lois pénales, je dis, des décisions où les autorités avaient prises pour que les gens respectent de manière obligatoire. Il y a eu même des...
Est-ce qu'il y a eu une loi à ce sujet? Je ne pense pas.
Il n'y a pas eu une loi, mais oui. Au moins j'ai dit que les autorités à un moment avaient pris des décisions, avaient fait des déclarations obligeant la population à respecter ces mesures-là.
Par exemple, l'amende de 5000 francs, si vous ne mettez pas les masques, on vous attrape, vous payez. Et vous voulez qu'on revienne à ça, à ces contraintes?
Non. Moi, je ne suis pas pour ça. Revenir à ça, pourquoi? Moi, j'ai dit ceci. Comme c'était de manière obligatoire, aujourd'hui, ceux qui sont là, qui sont en train de piloter, n'ont pas intérêt à dire que la population ne respecte pas ces mesures-là parce que c'était de manière obligatoire. On a vu des agents de l'État s'enrichir quant à ces mesures-là.
Bien,
comme c'était obligatoire, il faut que ça reste obligatoire et la population est censée respecter ces mesures-là. Mais je ne pense pas que c'est le cas parce que ces mesures-là, à mon avis, ce sont des conseils qu'on peut donner à toute la population. Et je n'ai même pas vu président Félix dire que venir prononcer, comme il avait dit, des décisions, à son temps, venir dire le contraire, que non, c'est fini pour ces décisions-là. Mais les gens, ce sont des intéressés d'eux-mêmes, et ces mesures-là ne sont plus respectées.
D'accord, merci. Merci, Maître Gaston. On va donner la parole à Paul de Luena. Bonjour, Paul. Paul, vous êtes en ligne depuis Luena. Bonjour. Il n'est plus là. Docteur Michel, vous avez la parole.
Ok, merci. Je vais juste répondre à Maître Gaston par rapport à ce qu'il a mentionné. Donc, je crois qu'il faut pas très vite dire que non, parce qu'on a une troisième vague, c'est la situation des Indiens. Non, ok. Donc, encore une fois de plus, il faut avoir, il faut pouvoir dégager ce qu'on appelle le lien de cause à effet ou le lien entre ce que nous voyons maintenant et ce qui s'est passé avec les variants indiens qu'on a détectés sur le sol congolais. Mais aussi qu'il n'oublie pas qu'on a eu la première vague, on n'avait pas encore cette situation de l'Inde, on avait eu la deuxième vague, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre pour le moment, c'est qu'en fait, on a une transmission de personne à personne. D'accord? Quand vous prenez les autres vagues, ben, c'était une transmission locale où des gens qui avaient la maladie ont transmis cette maladie à d'autres. Donc, encore une fois de plus, lorsqu'on vous dit que nous connaissons une diminution d'une vague, on ne dit pas que la maladie est terminée. Il y a toujours des cas résiduels. Et partant de ces cas résiduels, que ce soit 10, 15, 20, on peut avoir encore des remontées de cas si nous ne respectons pas les mesures. Parce qu'en fait, les hommes se rencontrent sans respecter justement ces mesures barrières. Et donc, le virus ne rencontre pas de barrières. Et donc, il passe d'une personne à l'autre. Donc, il doit comprendre que ça, c'est la même chose maintenant. C'est comme ça que la meilleure de façon à pouvoir endiguer ça, c'est pas jeter la pierre aux Indiens. Non, non, non. C'est déjà comprendre que aujourd'hui, nous, ici en RDC, nous avons des contaminations de personne à personne. Donc, ce sont des contaminations qui peuvent être aussi à prédominance locale. Maintenant, sur les mesures barrières, il faut qu'ils comprennent que lorsque nous disons qu'il faut respecter les mesures barrières, en santé publique, il faut voir cela comme une prescription. Hein? C'est comme un médecin qui vous dit, vous avez la malaria, prenez la quinine 3 fois par jour. D'accord, c'est un exemple. Vous n'allez pas dire bon, il a dit je peux prendre ou je veux voir si je peux prendre. Non,
c'est
une prescription parce qu'on sait très bien que ce qu'on vous donne comme prescription, c'est ça la solution à votre problème, de manière préventive ou de manière curative. C'est très important. Mais on sait aussi quelque part qu'il y a des gens qui sont récalcitrants. Moi, monsieur Jody, je suis médecin, il m'arrive parfois même de demander à un personnel de santé d'assister un malade, de veiller à ce que le malade prenne son médicament. Je demande à ce que soit là quand monsieur Jody prend son médicament. Parce que on sait parfois que le comportement humain...
Il y a des malades qui veulent pas.
Oui, il va te dire c'est amer. Non, mais quand je prends, j'ai des maux de tête, j'ai des vertiges. Oui. C'est important. Donc, encore une fois de plus, cette dimension de pouvoir comprendre que c'est important, c'est entre guillemets obligatoire, c'est ça qui va faire en sorte que les gens restent en vie et qu'à l'addition de ce que chacun fait, nous soyons justement une communauté protégée. C'est très important. Et donc pour moi, l'idée de pouvoir mettre en place une sanction n'est pas mauvaise en soi. Regardez, il y a
quelqu'un
des pays...
Quelqu'un parlait de la contrainte.
Exactement. Mais regardez ce qui s'est passé au Japon, en Corée, dans beaucoup de pays. C'est aussi ça qui a permis à ce que les gens se disent « Attention, si je circule sans masque, je peux être arrêté. » Cette mise en sanction, ok, permet aussi justement aux gens de dire « Je dois me soumettre à une prescription, je dois me soumettre à un règlement. » C'est très important. Mais maintenant, il faut appliquer. Ce qu'on voit dans notre pays, c'est que on savait très bien que les mesures barrières étaient obligatoires. On savait qu'il y avait des sanctions à être appliquées lorsque les gens ne les respectent pas. Mais on ne les a pas vues être utilisées en pratique. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, c'est là justement un appel à la police de jouer son rôle, un appel aux inspections, à tous les services attitrés qui doivent surveiller l'application des mesures, de faire ce travail. Encore une fois de plus, la question de gouvernance reste de taille. Si vous voulez qu'on arrive à des résultats escomptés, il faut respecter les prescriptions de santé publique qui sont données. Faut pas dire non, ben écoutez, je peux ou n'est pas. Non, écoutez, bon, on n'y revient pas trop.
Il n'y a pas à négocier.
Je crois qu'on a jamais changé et ne pensez pas que lorsqu'on parle d'une déplétion de la maladie parce qu'on a une tendance à la baisse d'une courbe quelque part, cela veut dire que tout est fini. Et donc maintenant là, pour moi, je demande une remontée en puissance de toutes ces mesures barrières, d'abord en termes d'obligation sur l'application, mais aussi une gouvernance. La gouvernance va veiller à ce que si les gens ne le font pas, si vous allez dans un magasin, il n'y a pas de point de lavage de main, vous avez des gens qui veulent enterrer, qu'ils reprennent les attroupements et tout, mais il faut justement sanctionner les responsables de cet établissement. C'est sur ces exemples-là qui vont pouvoir corriger l'aval. Les autres vont dire, écoutez, si moi j'ouvre un espace où je mets les gens en confinement et que je n'arrive pas à assurer qu'il y a une bonne distanciation, ainsi de suite, il n'y a pas de lavage de main, il n'y a pas de port de masque, je serai sanctionné. Si on ne fait pas ça, monsieur Jody, ben, nous-mêmes, nous contribuons à détériorer notre
espace. Donc, on peut dire que les salles mortuaires ont repris, comme d'habitude.
En tout cas, moi, j'en vois. En tout cas, lorsque je circule, je vois les pratiques d'enterrement. En tout cas, elles commencent à revenir comme avant. Même la police qui est là.
Les gens ramènent les corps à la maison.
Les gens assistent.
Comme c'était avant.
C'est vrai qu'on fait la levée du corps, les gens doivent assister à quelques oraisons. Mais regardez comment ça se passe. c'est vraiment 200-300 personnes autour d'un corps. Mmh. Les gens n'ont pas forcément de masque. Vous comprenez?
Et donc, ça, les accolades ont repris, les gens se sont
salués. D'accord? Je crois qu'une fois de plus, c'est l'occasion de dire aux gens, attention, ne vivons pas, n'attendons pas vivre ce qui se passe en Inde pour dire, ah, finalement, qu'est-ce qui se passe avec la RDC? Je l'ai toujours mentionné, monsieur Jody. Depuis le début de cette maladie, bon, partout où il y avait la Covid-19, les gens disaient qu'il n'y en avait pas en RDC. Un peu comme si on est un pays de miracles, hein. Je n'ai jamais compris ça. Partout où on disait, ici, il n'y en a pas.
Un déni total de la maladie.
Ici, il n'y en a pas. Oui. On a pris le temps à dire aux gens, il y en a. On commence à soigner les gens, vous avez vu le protocole qu'on a introduit. Non, partout, ça ne ici, ça ne marche pas. Après, aujourd'hui, la vaccination, partout on vaccine. Il y a des pays qui ont vacciné des millions de gens. Non, partout on va vacciner. Ici, on va transformer les gens en zombies. Il y a une puce à l'intérieur. Et donc, maintenant, là, nous sommes dans la troisième vague. Ben, il y a des gens qui pensent que, bon, voilà, écoutez, partout, il faut mettre le masque, sauf en RDC. Non, on n'est pas un pays des miracles, chers amis. On est un pays comme les autres. Nous n'allons réussir que si nous sommes sérieux avec ce qu'on nous demande. Et c'est ça la gouvernance. La gouvernance, c'est respecter les règles que nous vous donnons, nous spécialistes en santé. Si vous ne les respectez pas, qu'on ne vous trompe pas, nous allons vivre des situations malheureuses. Nous ne voulons pas y arriver, c'est comme ça qu'on est là pour vous sensibiliser. Donc, alors, qu'on arrête de créer de la confusion.
Oui, Charles de Kisimba de Lumbashi demande comment évolue la vaccination avec cette troisième vague. Est-ce qu'il faut changer la dose ou on maintient la même dose?
Non, d'abord sur la vaccination, si je dis, il y a quand même des efforts qui se font. En fait, ces efforts ne sont pas encore au niveau que nous souhaitons. On avait d'abord commencé avec la ville province de Kinshasa les 19 avril. Moi-même, je me suis fait vacciner, hein, pour ceux qui le savent. Mmh. Et après, aujourd'hui, on a 6 provinces qui vaccinent. D'accord, on a le Lualaba, le Katanga, le Nord Kivu, on a le Congo central, et on a bien d'autres provinces qui ont commencé, le Sud Kivu, qui ont commencé à vacciner. Donc, on se rend compte déjà qu'on déploie de plus en plus les services. D'accord? On est autour de 100, on est autour de 186 qui opère cette vaccination. L'idée, c'est d'aller à 400, à presque 500 sites qui vont devoir vacciner. Mais on n'est pas très satisfait, on n'est pas très content de nous parce que jusque là, on ne parle que de presque 23, 24 000 personnes vaccinées. C'est encore très peu quand vous voyez nos cibles. Donc, encore une fois de plus, c'est l'occasion pour moi de dire, lorsqu'on veut vacciner, même si le programme élargi de vaccination améliore la couverture en termes de sites de vaccination, la participation de la population à la vaccination est importante. Il faut que les gens viennent se faire vacciner. D'accord? Et on a même ouvert les cibles. Avant, c'était plus de 55 ans. Aujourd'hui, toute personne qui veut se faire vacciner peut se faire vacciner.
Avant, on disait que c'était pour les personnels soignants.
Voilà. Personnel soignant, d'accord?
Les gens qui ont les comorbidités.
D'accord? Mais en termes d'âge, maintenant, on se dit, OK. Pourquoi n'est pas, il y a des jeunes qui ont demandé de se faire vacciner. Pourquoi pas? Parce que vous savez que la Covid frappe tout le monde. Ça, c'est important. Maintenant, il faut continuer encore une fois de plus là, monsieur Jody, à travailler sur l'acceptation sociale. Et éviter de croire à tout ce que vous lisez dans les réseaux sociaux. Regardez le monde. Tous les pays, presque tous les pays africains vaccinent. Au monde, il y a des pays qui ont dépassé des millions, des 100, 200 millions de personnes vaccinées. Allez demander, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Même ici en RDC, nous avons vacciné presque 25 000 personnes. Regardez les chiffres, regardez les effets secondaires. Mais c'est des effets vraiment mineurs que nous avons remarqués. Donc encore une fois de plus, n'attendons pas la catastrophe pour dire, écoutez maintenant, où est-ce que je peux trouver ma dose? Non! Un homme sage, un homme averti, un homme responsable agit en amont, agit, n'est-ce pas, de manière précoce pour éviter justement les conséquences parfois qui sont irréversibles. Parce que quand vous êtes décédé, quand vous êtes parti, c'est fini.
Non, ça sera, il n'y a plus rien, quoi.
Pour les autres, vous n'allez pas revenir. Nous sommes en santé. Et chacun,
docteur Michel, un instant,
cette responsabilité-là.
D'accord. Pasteur Longo, vous êtes à Lubumbashi. Madame Evelyne nous appelle de Kananga. Pasteur Longo, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
J'ai des petites préoccupations par rapport à la thématique d'aujourd'hui.
Oui.
Première, c'est on a parlé de la première vague, deuxième vague, maintenant on est au niveau de troisième vague de cette maladie-là, et aussi de cette maladie. J'aimerais comprendre, la fin de la deuxième et de la première vague, et c'était à quelle période exactement? Parce que quand on parle de la fin, c'est-à-dire quelque chose s'arrête là et ne peut plus continuer à vivre. Maintenant, le début de la deuxième vague, c'était exactement à quelle période? Et la période de transition, là, entre la fin de la première vague et le début de la deuxième vague, qu'est-ce qu'il y a eu dans le comportement des Congolais et même dans le comportement des malades qui étaient soignés au niveau de la première vague? Quel était leur comportement? Et deux, la fin de la deuxième vague, c'était à quelle période exactement? Et la période de transition entre la deuxième vague et la troisième vague,
d'accord.
Exactement.
Hein. Merci
cette
beaucoup.
Transition-là, qu'est-ce qu'il y a eu?
D'accord.
J'ai encore fini, je continue.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a eu? Maintenant, les rapports qui sont sortis de la première vague, les rapports de la deuxième vague. Les équipes, je pense qu'ils se sont penchés là pour analyser ces rapports, comparer les résultats de la première vague à la deuxième vague et prévoir ce qui peut arriver après cette période au cas où la troisième vague apparaîtrait. Quel sera le conseil à donner aux communautés? Parce que moi, à mon avis, je trouve que les communautés congolaises que nous sommes, nous étions abandonnés et tout le monde était dans des discours scientifiques médicaux, discours politiques au niveau des politiciens.
Pasteur Longo, merci. On n'a plus beaucoup de temps. On va donner la parole à Madame Evelyne de Kananga. Bonjour, Madame.
Bonjour, je dis Daniel. Bonjour, les invités et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Oui, Madame Evelyne, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, Daniel, moi, ma préoccupation est telle que, et mon point de vue plutôt, est tel que laisser les Congolais vivre avec la coronavirus parce que. Nous sommes déjà habitués, hein, parce qu'à la première vague, on a pris des décisions à la hâte et ça crée trop de problèmes dans la population, surtout au plan économique. Maintenant, ma question à notre invité est celle-ci. Sur le plan économique, est-ce que l'État a déjà pris, a déjà arrêté des mesures pour le contrôle du marché? Ça fait un. Des deux. Quelles sont les mesures prises pour que les plus vulnérables se retrouvent dans cette troisième vague du coronavirus? Aussi, si aujourd'hui on va attaquer la troisième vague, qu'on laisse les églises évoluer. Parce que si vous voyez dans l'histoire de la RDC, ce sont les prières qui sont en train d'aider la RDC
à évoluer. Merci madame, on n'a plus beaucoup de temps, bientôt on va terminer cette émission. Docteur Michel.
Très rapidement, par rapport au pasteur Longo, donc la première vague, donc d'abord la pandémie a commencé au mois de mars 2020 en RDC. Donc la première vague a connu sa déplétion autour du mois d'octobre 2020, ok? On a senti septembre-octobre une accalmie. Il faut que le pasteur comprenne que lorsqu'on dit que la première vague est passée, c'est pas dire qu'on est tombé au cas zéro. On a des cas résiduels qui restent. C'est juste, en fait, une diminution du nombre de cas lorsqu'on compare avec l'avant. D'accord? Une diminution. On n'a pas dit une disparition.
Une baisse de la courbe.
Voilà, une baisse de la courbe. Et donc, lorsque la courbe baisse, c'est là, justement, l'erreur que les gens, commettent. Quand la courbe baisse, on pense que c'est terminé. Non. Il y a encore des cas résiduels qui continuent à circuler dans la communauté et qui peuvent faire repartir de nouvelles contaminations. On est reparti encore avec la deuxième vague. En fait, on a eu une déplétion de la deuxième vague autour du mois de mai. Mais fin mai, début avril, on a constaté justement que on avait encore une fois de plus une déplétion, ok, une diminution de la courbe. Et encore une fois de plus, la diminution ne veut pas dire la disparition. Et quand on reste justement dans cette distraction de croire que la maladie est terminée, on repart. Je crois qu'il suit même ce qui se passe à travers d'autres pays. C'est un peu le même cycle. C'est comme ça que, en intervenant ici, Monsieur Jourdi, je voudrais rappeler aux gens que lorsqu'on dit que la première vague est passée, ce n'est pas dire que la maladie est terminée. Donc, il faut maintenir les efforts. Le problème, c'est ça, c'est que nous relâchons tout de suite les efforts lorsqu'une vague est passée. Il faut maintenir les efforts pour justement être en mesure d'éviter que les cas résiduels ne puissent encore contaminer des masses de gens.
Madame Evelyne parle des conséquences économiques.
Alors, Madame Evelyne, il faut d'abord que vous puissiez ne pas dire que laisser les Congolais vivre avec la COVID-19. Peut-être parce que vous n'avez pas encore vu ce qui se passe dans les morgues. C'est parce que vous n'avez pas encore vu ce qui se passe dans les hôpitaux. Il y a des familles endeuillées aujourd'hui. Il y a des orphelins de la COVID-19. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on laisse les Congolais vivre avec une telle maladie alors que cette maladie est en train de laisser des familles et des communautés entières endeuillées. Je crois que si vous avez l'opportunité de venir à Kinshasa, je vous ferai visiter certaines familles, je vous ferai visiter les morgues, mais vous allez regretter parce que déjà la première crise à juguler, c'est la crise humaine. Ces gens qui meurent, ces gens qui sont malades et qui ne peuvent pas travailler, vous avez un père de famille, une mère de famille alitée. Qu'est-ce que vous allez attendre encore du reste de l'économie? Parce que ce sont ces gens-là qui doivent d'abord être en bonne santé pour travailler.
Et finalement,
le gouvernement, et ça je lui demanderai de lire le document, a élaboré un plan d'atténuation des impacts socio-économiques de la COVID-19. Dans ce plan, il est justement décliné plusieurs axes pour pouvoir à la fois lutter contre la crise sanitaire, mais aussi assurer que pendant qu'on lutte contre la maladie, il y a des mesures qui relancent l'économie.
Pour terminer, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on retient, docteur?
Non, il faut revenir sur la sensibilisation sur les mesures barrières. Nous sommes dans une troisième vague, que les Congolais arrêtent de spéculer, arrêtent de pouvoir se faire mâcher, broyer dans les réseaux sociaux. Le respect des mesures barrières va nous aider encore une fois de plus à bien gérer cette troisième vague et la participation au programme de vaccination qui a été lancé depuis le 19 avril 2021.
Docteur Michel Mouvoudi, membre de l'équipe de Riposte contre Covid-19 en RDC, merci et bon début de semaine.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Jody.
Merci de votre fidélité à Okapi Service. Tout à l'heure, nous allons suivre les informations et on se retrouve à 11h05 pour la deuxième partie d'Okapi Service. On va parler de la police spéciale de lutte contre les embouteillages. Comment fonctionne cette unité? Pascal Masirika va nous informer dans quelques instants.